Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, il y a évidemment le bilan des cas, bilan des hospitalisations, surtout les hospitalisations qu'on va commencer à surveiller avec un peu plus de nervosité.
Là. Oui, qui font un bond aujourd'hui parce que le nombre de cas, on est à 703. Là. C'est plus qu'hier, mais par rapport à la semaine dernière, on avait 699.
C'est presque équivalent.
Et là, ça fait deux jours qu'au niveau des cas, on ne voit plus cette montée. Ça se peut que demain, on passe à mais tu dis pour
mais
deux jours.
Mais les hospitalisations, ça a doublé en deux semaines.
Ben, c'est ça. Hospitalisation, t'as plus 20 aujourd'hui. Et là, tous les jours, c'est des cas qui s'ajoutent.
Hier, c'était plus 20 cas aussi.
Ouais, parce qu'on arrive à 200. Puis ça fait presque, ça fait pas longtemps qu'on a passé le 100, les hospitalisations. D'ailleurs, j'entendais dans les projections qu'on fait à chaque semaine de l'INSPQ ou l'INES sur les hospitalisations. On s'attendait à avoir le niveau aux soins intensifs qu'on a, le 70, le 22 septembre. Si on prend là, les projections des dernières semaines, et on...
On est une semaine, 10 jours plus vite. Là,
exact. Ouais. Donc, souvent, on peut avoir ça comme pessimiste, les projections. Ben là, on était plutôt optimiste. Donc, moins une personne aux soins intensifs, mais pour ce qui est des soins réguliers, là, c'est plus 20. Ce qui inquiète quand même, parce que, de vous dire, en Ontario, on était à pratiquement 800 cas aujourd'hui, moins 10 hospitalisations. Mais hier, on faisait un bond de 80. Là. Donc, on est à 365 personnes hospitalisées. Et un point par rapport à les cas de COVID présentement, c'est que les gens reste longtemps aux soins intensifs. Ça coûte cher. Évidemment, il y a la partie coût là, qu'on assume. C'est 23 000 $ par patient maintenant en moyenne de la COVID, alors que c'est beaucoup moins que ça. Quelqu'un qui a une crise cardiaque, la moyenne, c'est 7 000. On s'entend qu'une crise cardiaque, c'est
un état de santé grave,
très sérieux. 23 000. Quand on est hospitalisé aux soins intensifs, c'est 50 000. Et une des données, t'en parlais il y a quelques semaines, c'est que ceux qui sont présentement aux soins intensifs sont de plus en plus jeunes et ils meurent pas. Alors, ils sont aux soins intensifs très longtemps.
C'est très à dire là, pour les pauvres personnes âgées qui sont mortes rapidement dans les premières vagues de la COVID, mais c'est ça, c'est la réalité crue. Là.
Parce qu'on a des gens dans la quarantaine, cinquantaine, qui sont en bonne santé, terrassés
par
la COVID.
Avec le soutien respiratoire, avec les ventilateurs, ben, tout ça.
Ils ont un bon cœur, les autres organes sont en parfaite santé, de sorte que le corps est capable de subir ça beaucoup plus longtemps. Ça permet, dans certains cas, aux gens de s'en sortir, mais ça engorge le système de santé beaucoup plus parce que c'est des semaines et des semaines.
C'est de la réadaptation.
Tout à fait. On voyait d'ailleurs un politicien en Floride là, qui était anti-masque, qui traitait Fauci de nom, qui disait que c'était pas une vraie pandémie. Là, un élu qui là est aux soins intensifs depuis, je pense, 3 semaines. C'est de longs séjours en ce moment pour bien des gens. Alors, ça alourdit. On dit aussi que le nombre de personnes qui passent des soins réguliers aux soins intensifs est beaucoup plus nombreux aussi que dans les vagues précédentes. Ou en général, c'était peut-être 1/8, 1/10, mais là, c'est 2/5, ou 1/4.
Mais ça aussi, c'est lié à l'âge. C'est-à-dire que des personnes faibles, fragiles, on les gardait des fois à l'hôpital un peu sous... Ils faisaient plus de patients hospitalisés, ils n'étaient pas en état critique, mais on les gardait sous observation parce qu'on se disait, hey, tu sais, ce monsieur-là, ce madame-là, 80 quelques années, santé fragile, faudrait pas que ça prenne le mauvais bord, fait qu'on les gardait à l'hôpital. Alors que des gens de 40 ans, il y a comme moins d'entre deux. Si t'as besoin des soins intensifs, si t'es vraiment en détresse respiratoire, on t'amène là. Mais sinon, même si t'es magané, fièvre, toi, tu peux vivre ça chez toi. Ils vont te dire, regardez, surveillez tel symptôme. Si vous étouffez, vous êtes plus capable de respirer, venez-vous-en à l'hôpital au plus vite. Mais il n'y a pas de nécessité, dans bien des cas, il n'y a pas de nécessité d'hospitalisation ou de garder, tu sais, on se dit la personne va être maganée dans son lit, mais elle peut rester à sa maison, là.
D'ailleurs, je peux vous faire entendre un extrait du ministre de la Santé aujourd'hui qui parlait aux médias, là, autour de cette réunion. On est en préparation pour la rentrée parlementaire. Mais questionné sur cette hausse d'hospitalisation qui est attendue, Christian Dubé a donné cette réponse.
C'est pas une question d'être alarmiste, mais moi, je vais être très clair, là. Les non-vaccinés ne viendront pas brouiller les cartes de notre retour à la normalité. Qu'on soit très, très clair, là, et c'est pour ça qu'on publie ces statistiques-là, c'est d'être capable de dire aux non-vaccinés, là, c'est pas des inventions qu'on fait. Hier, il y a 10 personnes qui sont rentrées aux soins intensifs, dont 9 étaient non-vaccinés.
C'est incroyable. C'est tellement gros.
Et souvent,
frappant.
L'unique personne, puis on le dit, c'est souvent des personnes avec de lourdes comorbidités.
J'ai vu, ouais. Puis j'ai vu un reportage, je me souviens plus dans quel état américain, et c'était un portrait identique à chez nous. On disait, les deux clientèles qui se retrouvent dans des besoins de soins de santé importants sont des plus jeunes, quarantaine, cinquantaine, etc., non vaccinés. Et des personnes vaccinées, mais très âgées, système immunitaire affaibli.
C'est pas les mêmes, c'est pas le même nom.
Mais c'était, je veux dire, aux États-Unis, il y avait le même portrait que ce que le ministère de la Santé nous donne ici, là.
Et il y a des inquiétudes par rapport au personnel, parce que là, il y a tout le dossier du passeport vaccinal, l'obligation de la vaccination dans le milieu de la santé. Mais on sait, là, présentement, il manquerait à peu près 4000 infirmières, infirmiers dans le réseau. Ça inquiète. Aujourd'hui, Christian Dubé a répondu aussi là-dessus. Demande aux gens de rester, de continuer, que les choses devraient s'améliorer, entre autres, avec les dispositifs de la nouvelle convention collective qui sont pas tous en place. On peut écouter Christian Dubé à nouveau là-dessus.
Qu'on n'a pas vu encore tous les avantages de toute la convention collective qui vient d'être signée. On n'a pas vu tout ce qui va avoir comme impact positif pour diminuer le temps supplémentaire obligatoire. On sait qu'ils sont fatigués. On le sait, ça. Mais je pense qu'il faut attendre d'avoir les bénéfices de toutes les mesures.
Bon, alors beaucoup de fatigue, on est inquiet dans le réseau parce que il y a de l'épuisement et on voit de plus en plus d'histoires d'infirmiers, d'infirmières qui quittent le réseau à bout de souffle. C'est pas en lien avec le statut vaccinal là, dans la plupart des cas, c'est tout simplement une très très grande fatigue. Un mot sur le passeport vaccinal parce que aujourd'hui un petit point de presse de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault concernant l'arrivée là, la fin de la période de transition, de la période de grâce. Le 15 septembre, ça approche, là, on est le 9, ce sera terminé. Et là, c'est la tolérance zéro, a voulu répéter Geneviève Guilbeault aujourd'hui. Elle dit ça va vous prendre votre code QR absolument à partir de mercredi prochain pour pouvoir rentrer dans un restaurant et dans les autres endroits où on demande le passeport vaccinal. Les personnes, que ce soit les exploitants ou les clients qui ne se conforment pas, c'est entre 1000 à 6000 $.
Est-ce qu'elle a donné plus de détails sur qui va vérifier ça et comment? Parce que la dernière fois que la question avait été posée à Christian Dubé, c'était assez élastique, là.
Effectivement. On en a donné un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Ce qu'on dit, entre autres, c'est que les commerçants qui sont aux prises avec des clients qui refusent de présenter le passeport vaccinal vont devoir appeler les policiers. Bon, alors c'est comme ça que ça... C'est à la base le tenancier, le propriétaire, les employés qui vérifient ça. S'il y a un problème, une confrontation, appelle les policiers. Pour ce qui est des propriétaires qui, eux, ne suivront pas les règles, ben là, c'est la dénonciation citoyenne. Et à ce moment-là, si on fait un signalement, là, on enverra un policier.
Des inspecteurs.
Sauf s'il arrive un policier, puis là, je veux dire, avez-vous votre passeport vaccinal, monsieur l'agent? Mais on dit qu'il y aura des agents des forces de l'ordre qui vont faire des vérifications sur le terrain, ce que Christian Dubé n'avait pas vraiment dit la dernière fois. Là, est-ce que c'est des agents des forces de l'ordre déguisés en clients? Est-ce que moi, j'ai pas cette information-là. Mais il y aura des vérifications. À quel point on risque d'en voir et que les propriétaires rébarbatifs vont se sentir sous surveillance? On verra, mais en gros, c'est le principe de dénonciation citoyenne qui fera peut-être pas l'unanimité, mais pour ce qui est des clients, c'est les employés qui devront s'adresser aux policiers directement s'il y a un problème.
Tu l'as effleuré tout à l'heure, toute une étude sur le coût des patients de la COVID. On soigne tout le monde, puis on se pose pas la question sur la... On se pose pas vraiment de questions, est-ce qu'on soigne ou on soigne pas des gens, mais les patients COVID, là, sont vraiment un coût important pour le système. Et on va... c'est une... je fais toujours le parallèle avec les États-Unis. Moi, aux États-Unis... t'as un système d'assurance. T'as vu qu'il y a des gens qui ont vu leur prime d'assurance augmenter, un peu comme un fumeur, le principe d'un fumeur.
Parce qu'ils sont pas vaccinés.
Parce qu'ils sont pas vaccinés.
Ben, on peut le comprendre.
Toi, si tu prends une assurance vie ici, là, pis t'es fumeur, tu vas payer plus que quelqu'un qui est du même âge que toi, etc., qui est non-fumeur.
Oui.
T'sais, tu vas payer une surprime. Mais ici, le système de santé est gratuit, là. Fait que on dit qu'un patient COVID coûte 23 000, 50 000 s'il passe aux soins intensifs, mais c'est...
Ouais, qu'on trouvait que les vaccins on les payait cher, mais à 40 $ la dose versus 50 000,
ouais,
c'est rentable.
Ça revient
le
pas
vaccin
cher
là-dessus.